RFI.
Orange Monnaie, le service de transfert, retrait d'argent et paiement par le mobile, vous souhaite une excellente année avec Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. 14 pays africains, dont 12 anciennes colonies françaises, utilisent toujours le franc CFA comme monnaie officielle. Cela concerne 155 millions de personnes. Ces 14 pays, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, doivent-ils battre leur propre monnaie? La question revient régulièrement dans l'actualité. Cette fois, c'est le vice-président italien Luigi Di Maio qui a relancé le débat en accusant la France d'appauvrir l'Afrique et par conséquent d'aggraver la crise migratoire. Des propos insignifiants, a répondu Paris. Des propos en tout cas très politiques, c'est ce qu'a démontré la chronique de Sophie Malibaud, les dessous de l'Infox. Alors le franc CFA est-il un frein au développement de l'Afrique ou au contraire une garantie de stabilité, un bouclier contre une inflation galopante dans des pays à l'économie souvent fragile? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou contactez-nous sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, comme chaque matin, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. On commence par l'actualité brûlante du moment, la crise au Venezuela, un pays qui a depuis mercredi dernier deux présidents et qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la pauvreté. Depuis 2014, 2 millions d'habitants ont pris le chemin de l'exode. Paola Vasquez Lezama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS et spécialiste du Venezuela. Janvier, qui nous appelle de N'Djamena, a des questions à vous poser. Janvier, bonjour.
Bonjour Chantal Leroux et bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Janvier, on vous écoute. Posez votre question à Paola.
L'opposant vénézuélien Juan Guaido s'est autoproclamé mercredi dernier comme président par intérim du Venezuela. Comment peut-on expliquer son ascension politique fulgurante alors qu'il était inconnu il y a de cela quelques semaines?
Paola Vasquez, qui est donc cet homme de 35 ans qui porte sur ses épaules les espoirs de millions de Vénézuéliens?
Et Juan Guaido, il est jeune, il est né en 83, il fait partie d'un parti politique d'opposition vénézuélienne qui s'appelle Voluntad Popular, dont les premiers leaders du parti, il y a un qui est emprisonné chez lui, il y a un autre qui a demandé l'asile à l'ambassade du Chili à Caracas, il y a un autre qui est à l'exil, donc ça, disons que ça tombait sur lui qui a prêté serment comme président de l'Assemblée nationale
au mois de janvier.
Voilà, donc c'est une surtout, mais pourquoi il est devenu si populaire et il a pu assumer les rôles qu'il est en train d'assumer maintenant, c'est parce qu'il a su parler aux forces armées vénézuéliennes et ainsi qu'à des secteurs chavistes et non chavistes de la société vénézuélienne. Il a un discours fédérateur qui casse un peu la polarisation qui règne dans ce pays, dans la population.
Et il faut rappeler donc qu'il était président donc par intérim de l'Assemblée nationale, une assemblée élue en décembre 2015, dominée par l'opposition, et dont Nicolas Maduro a refusé de reconnaître la légitimité.
Voilà, non, il n'était pas président par intérim de l'Assemblée nationale, il a prêté serment comme président de l'Assemblée nationale.
D'accord.
La présidence de l'Assemblée nationale se renouvelle tous les ans. Et cette année-là, c'était à son parti de l'assumer. Donc, ce qu'il a fait, c'est faire valoir l'article 233 de la Constitution vénézuélienne qui stipule que s'il n'y a pas de président élu d'une manière démocratique, comme l'opposition dit que c'est le cas de Nicolas Maduro, on est devant une usurpation de pouvoir ou un vide de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il a pu déclencher toute la machine juridique qui peut lui permettre de prêter serment les 23 janvier devant un forum public qui s'appelle chez nous les Cabildo Abiertos.
Janvier, vous êtes toujours en ligne de N'Djamena. Vous avez une autre question pour Paola Vasquez?
Oui, Chantal Leroux. Le président des États-Unis, Donald Trump, a aussitôt reconnu Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Comment peut-on expliquer la prise de position par Donald Trump ainsi que de nombreux autres dirigeants?
Paola Vasquez, oui, parce que la Russie, la Chine, Cuba et la Turquie également, donc eux continuent à soutenir le régime Maduro, alors que l'ONU et l'Union européenne ont appelé le Venezuela à organiser des élections libres et crédibles. Et ce week-end, 6 capitales européennes, dont la France, ont lancé un ultimatum à Nicolas Maduro. S'il n'annonce pas dans les 8 jours des élections démocratiques transparentes, alors elles reconnaîtront Juan Guaido comme président en charge du pays. Ultimatum aussitôt rejeté par Nicolas Maduro. Donc le soutien américain était extrêmement logique. Maduro, c'est l'ennemi juré des États-Unis comme l'était Chavez avant lui.
Il faut élargir un peu les cadres. L'opposition vénézuélienne a fait un travail à l'étranger pour essayer de dénoncer ce qui se passe au Venezuela aussi. On ne peut pas non plus dire que c'est des pantins ou des gens qui sont manipulés de l'extérieur. Ce qui se passe au Venezuela, c'est extrêmement grave. Et officiellement, l'opposition a pu dire officiellement, finalement, le 10 janvier, que c'était une dictature, disons avec toute la propriété du terme. Donc c'est un travail aussi diplomatique qui s'est fait au niveau parlementaire. L'Union interparlementaire mondiale qui s'est réunie tous les ans à Genève reçoit systématiquement les opposants vénézuéliens qui ont été les dénonciations d'emprisonnement, de harcèlement, d'attaque physique. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, sauf que quand les Américains font des gesticulations, tout le monde regarde. Mais c'est un processus qu'il faut voir de loin. Ça vient de au moins de 2015 et même avant. Mais c'est surtout en 2015 que cette assemblée a été littéralement persécutée. Et là, après un travail titanique, disons, énorme, elle vient de pouvoir obtenir de la reconnaissance. Il faut élargir le cadre des choses.
On a un autre auditeur en ligne qui veut vous poser des questions. Paola Vasquez. Bouna, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour Paola.
Vous nous appelez de Nouakchott. Alors, quelle est votre question à Paola Vasquez?
Nous assistons à un soulèvement populaire et militaire depuis quelque temps au Venezuela. Je voudrais savoir d'où vient ce soulèvement, qu'est-ce qui est à l'origine de ce soulèvement. Et ensuite, M. Guaido, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé, il n'a pas le soutien des militaires, mais est-ce que les militaires pourront assumer le rôle d'arbitre entre les deux?
Paola Vasquez, Juan Guaido veut faire basculer l'armée du côté de l'opposition. Est-ce qu'il a une chance d'y parvenir?
Disons que pour la dernière question, c'est il n'a pas de soutien explicite, mais les signes de soutien les plus visibles, c'est qu'il n'y a pas eu un état de siège ni l'établissement d'un couvre-feu. Les soutiens les plus explicites, disons, c'est que Guaido n'est pas emprisonné. Ça, c'est un signe très important de la part du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'ils sont sous pression, parce que dans des circonstances entre guillemets normales, Guaido serait déjà en prison, comme il y a beaucoup d'autres leaders politiques vénézuéliens qui le sont. Et par rapport au soulèvement, en effet, il y a eu des signes à la caserne des Cotis, hein, et il y a des émeutes très importantes. On est déjà dans une trentaine de morts, mais la répression continue à être très importante parce qu'il n'y a pas une ligne de commandement unique. Certains corps de sécurité l'État réprime et d'autres pas. Donc tout est à voir en fait. C'est en train de se passer en ce moment. On verra bien, disons que les camps ne sont pas complètement clairement définis.
Merci beaucoup Paola Vasquez Lezama d'avoir répondu à nos questions. Janvier et Bouna, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les trois. Emmanuel, bonjour.
Et bonjour Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan et vous aviez envie de revenir sur la signature la semaine dernière à Aix-la-Chapelle par Emmanuel Macron et Angela Merkel d'un nouveau traité de coopération entre la France et l'Allemagne. Pascal Thibault, bonjour. Pascal ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend. Vous êtes notre correspondant à Berlin. Emmanuel, vous pouvez poser votre question à Pascal Thibault, on vous écoute.
Ok, ma première question est de savoir quelle nécessité y a-t-il pour la France et l'Allemagne de signer maintenant un nouveau traité.
Pascal Thibault.
Ben, je crois qu'on peut évoquer deux aspects. D'abord, il y a en janvier 2019 la volonté d'un signe pour l'Europe à l'heure où les forces centrifuges nationalistes prennent du poids, à l'heure où un pays, la Grande-Bretagne, est en train de quitter l'Europe, c'est de montrer qu'on peut aussi faire l'Europe autrement en se coordonnant, en travaillant ensemble. Et puis, un nouveau traité franco-allemand, on en parle en fait depuis plusieurs années, ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a, par rapport à celui de 1963, qui reste en vigueur, le nouveau traité s'ajoute au précédent, la volonté d'insister sur des thèmes qui peut-être n'étaient pas au cœur du précédent traité, la coordination des politiques au niveau européen dans une Europe plus intégrée qu'en 1963, ça vaut pour la politique de défense, la politique étrangère, le travail en commun à l'ONU, mais aussi parce que des thèmes n'existaient pas à l'époque, comme par exemple l'intelligence artificielle. Et puis il y a aussi des projets concrets pour la société civile, comme tout un chapitre sur la coopération transfrontalière entre les régions de chaque côté de la frontière, ou la création d'un fonds citoyen.
Emmanuel, vous avez une autre question à poser à Pascal.
Oui, évidemment. Le président français a évoqué le fait que ce traité permettrait l'obtention par l'Allemagne de son propre siège à l'ONU. Alors j'aimerais savoir quels moyens la France dispose-t-elle pour faire pression pour obtenir ce projet.
Pascal.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait des années déjà que la France s'engage à soutenir, dans le cadre d'une réforme plus globale des Nations Unies et plus spécialement de son Conseil de sécurité, à soutenir une candidature de l'Allemagne pour que le pays obtienne un siège permanent. Le but, ça serait d'avoir un Conseil de sécurité des Nations Unies qui soit à l'image du monde au début du XXIe siècle et non plus à l'image de celui que nous avions en 1945. Donc, ça signifierait aussi que d'autres États feraient leur entrée avec un siège permanent. Donc on réitère une volonté de soutien à l'Allemagne, mais il faut dire que vu la situation actuelle, c'est tout de même quelque chose qui a peu de chances de voir le jour, en tout cas à court et à moyen terme.
Et il n'est évidemment pas question que la France cède son siège au Conseil de sécurité, son siège permanent à l'Allemagne, comme les réseaux sociaux, comme il a été dit sur les réseaux sociaux.
Non, absolument pas. Il s'agit d'obtenir, dans le cadre d'une réforme de Conseil de sécurité, la présence de nouveaux États membres, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde peut-être, etc. Mais non pas que la France renonce à son siège. D'aucuns, comme par exemple le ministre des Finances allemand, avait plaidé à l'automne dernier pour un siège européen. Le problème, c'est que à l'ONU, il ne peut y avoir que des pays qui soient représentés et non pas des organisations ou des entités internationales.
Pascal, la signature de ce nouveau traité à Aix-la-Chapelle a provoqué la colère de l'extrême droite et des souverainistes en France. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, et Nicolas Dupont-Aignan ont accusé le président Macron de vouloir céder à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine. Et là encore, c'est faux, c'est de l'infox.
Oui, tout à fait. En fait, il se base, si l'on peut dire, sur ce chapitre que j'évoquais sur la coopération transfrontalière. Donc, ça concerne bien évidemment l'Alsace, qui est frontalière de la région du Bade-Wurtemberg. Mais le but n'est en rien de céder un quelconque territoire français à l'Allemagne. Le but, c'est pour des projets de coopération très concrets, la création de crèches, d'écoles franco-allemandes, de traitement des eaux usées, etc., de solutionner des problèmes juridiques et techniques qui font qu'il y a des règles, des normes, etc., qui sont différentes des deux côtés de la frontière, pour essayer d'harmoniser et de savoir, par exemple, si dans une crèche, ce sera le volume horaire hebdomadaire allemand ou français qui s'applique, enfin des choses très concrètes, et quelque chose qui d'ailleurs ensuite pourrait servir de projet pilote, en quelque sorte, pour des coopérations transfrontalières ailleurs en Europe.
Merci beaucoup Pascal Thibault pour ces explications. On vous retrouve très bientôt sur l'antenne de RFI. Emmanuel, bonne journée à Abidjan. On part pour Abéché au Tchad, d'où nous appelle Hamid. Bonjour.
Bonjour Chantal Loro et bonjour à tous les éditeurs fidèles de RFI. Merci une fois de plus de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes.
Alors vous, ce qui vous intrigue, c'est la diminution de la population à Paris. Et pour répondre à vos interrogations, nous sommes en ligne avec Émilie Moreau. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes pilote des études sociales, sociétales et innovation à l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme. Hamid, vous avez la parole, vous pouvez poser votre question à Émilie Moreau.
Voilà, ma question est relative à l'étude réalisée cette semaine par l'atelier parisien d'urbanisme et dont les résultats sont parus dans le journal Le Monde. En fait, selon ce rapport, la capitale française a en 5 ans perdu 60 000 habitants, chiffre qui risquerait bien d'augmenter d'ici 2025. Donc ma question est de savoir comment expliquer les raisons de cette perte progressive des habitants de Paris.
Émilie Moreau, est-ce que les raisons sont d'abord à chercher du côté du coût de l'immobilier à Paris ?
Alors, juste pour rappeler ce que l'on commente, là, on commente les derniers résultats du recensement de la population de l'INSEE qui sont datés du 1er janvier 2016, que l'on compare aux données de 5 ans auparavant, donc datées de 2011. Donc, selon ces résultats, la population parisienne a baissé d'environ 0,5% par an, sachant que, enfin pour rappel, hein, sur une très longue période, la population parisienne avait baissé entre 68 et 99 avant de renouer avec une légère hausse dans les années 2000, et de retrouver la baisse entre 2011 et 2016. Alors, quels sont les facteurs d'explication de cette baisse ? Donc, l'évolution de la population sur un territoire peut s'expliquer par différents facteurs. Des facteurs démographiques, liés par exemple à l'évolution des naissances, et des facteurs qui sont liés à l'évolution du parc de logements, à son accroissement et à sa capacité à accueillir la population. Alors, on relie l'évolution de la population parisienne sur la dernière période à deux principaux facteurs. D'une part, la baisse du nombre de naissances sur cette période, puisque Paris compte à peu près 2000 naissances par an de moins que sur la période antérieure, ce qui s'explique par le fait que les Parisiens en âge de faire des enfants sont légèrement moins nombreux, qu'ils ont moins d'enfants et qu'ils les ont plus tard. Donc c'est un facteur qui joue sur l'évolution de la population, mais de manière relativement peu importante. Le principal facteur d'explication de cette baisse de la population et la forte hausse du nombre de logements inoccupés sur la période, une augmentation donc de la part de logements inoccupés qui s'établit à 17% du parc de logements en 2016 et qui correspond à environ 40 000 résidences principales en moins sur la période, donc une tendance qui limite fortement les efforts réalisés en matière de construction de logements, on le comprend bien. Donc ça peut paraître paradoxal dans un territoire attractif comme les Paris. Mais en fait, cette hausse du nombre de logements inoccupés est liée à l'augmentation des logements qui sont consacrés à plein temps à la location.
Voilà, donc c'est Airbnb qui est en train de changer la physionomie de Paris.
Voilà, qui en fait fait qu'un nombre très important de logements ne sont plus occupés de manière pérenne à l'année par des Parisiens. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, ça correspond à un nombre de logements en moins qui est tout à fait important, puisque sur la période, sur les 5 ans, ça revient à peu près 40 000 logements de moins.
Alors, est-ce que la mairie de Paris a la volonté politique d'endiguer cette désertion de la capitale par ses habitants, d'empêcher Paris de devenir une ville-hôtel ?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises, notamment par la loi, hein, le cadre législatif, il y a la loi Elan, et puis par des mesures qui ont été prises par la ville de Paris également, qui doivent permettre de limiter l'évolution de ce parc de logements inoccupés, puisque ce sont des mesures qui passent notamment par la mise en place d'un numéro d'enregistrement pour tous les meublés touristiques, un numéro unique, la suspension des annonces lorsque la location dépasse les 120 jours annuels autorisés, et puis la loi qui prévoit également de plus lourdes sanctions pour les propriétaires et pour les sites internet qui ne respectent pas le cadre légal.
Émilie Moreau, où vont les Parisiens qui quittent la capitale ? Est-ce qu'ils vont en proche banlieue, en lointaine banlieue, en province ?
Alors, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, on a un nombre de communes de banlieue, la métropole du Grand Paris, qui attire un nombre important de Parisiens. En lien avec un effort de construction qui a été important sur la période, donc par ces communes, qui sont des communes qui sont proches de Paris, comme Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Montreuil, qui accueillent une part importante de ménages, notamment des jeunes ménages qui résidaient auparavant à Paris.
Merci beaucoup Émilie Moreau pour ces explications. Hamid, bonne journée à Abéché. On va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour parler du franc CFA. Le CFA est-il un garant de stabilité ou un frein au développement des pays africains ? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou donnez-nous aussi votre avis sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.